Chapitre 11. Jugement.
Où peut-elle être? Qu'est-elle en train de faire?
Questionna Kefria inquiète.
Je l'ignore,
répondit Ronika d'un ton irrité. Kefria baissa les yeux sur la tasse qu'elle tenait à la main. Elle se contraignit au silence. Elle avait failli demander à sa mère si elle était vraiment certaine d'avoir vu Althea. Après la semaine épuisante qui venait de s'écouler, elle lui aurait aisément pardonné d'avoir été le jouet de son imagination. Plus aisément, en tout cas, qu'à sa sœur cadette qui surgissait puis disparaissait brusquement. Et que sa mère parut accepter simplement la conduite scandaleuse d'Althea n'était pas fait pour améliorer son humeur.
« Elle m'a dit qu'elle reviendrait avant demain matin, »
ajouta Ronika d'une voix radoucie.
« Le soleil vient à peine de se coucher. »
Tu ne trouves pas bizarre qu'une jeune fille de bonne famille sorte toute seule la nuit et la première nuit de son retour de surcroît, alors qu'elle a disparu pendant presque un an?
Certainement. Pourtant, je la reconnais bien là. J'en suis venu à accepter de ne pouvoir la changer.
Je ne bénéficie pas de cette liberté d'action, moi,
intervint Malta impétueusement.
J'ai tout juste la permission de faire le tour de Terrilville en plein jour.
« C'est vrai, »
reconnut Ronika affable. Ses aiguilles cliquetaient en cadence tandis qu'elle travaillait. Elle feignit de ne pas remarquer le bruyant soupir de Malta. Elles avaient dîné de bonne heure et se tenaient à présent dans le cabinet. Personne n'avait jugé utile de préciser qu'on veillait pour attendre le retour d'Althea. Ronika tricotait comme si elle disputait une course. Kefria n'avait pas sa concentration. Elle piquait obstinément son aiguille dans son ouvrage de broderie et tirait sur un point. Elle n'allait pas se mettre dans tous ses états pour sa sœur. Elle n'allait pas se laisser voler la paix relative qu'elle avait enfin trouvée. Malta ne faisait même pas semblant de s'occuper. D'un air maussade, elle avait joué du bout de sa fourchette avec le simple repas, en faisant remarquer qu'elle regrettait déjà les serviteurs de Davad. À présent, elle arpentait la pièce, traînait les doigts sur le bureau, prenait les petits souvenirs de voyage de son grand-père, les retournait, puis les reposait. Son agitation portait sur les nerfs déjà vifs de Kefria. Heureusement, Selden était déjà couché, épuisé après cette longue semaine de réjouissance qui avait en revanche épanoui Malta. Depuis le départ de la dernière voiture, celle-ci avait pris un air abattu. Et elle faisait penser à une créature marine échouée sur la grève.
« Je m'ennuie, »
déclara-t-elle en écho aux pensées de sa mère.
« Je regrette que les marchands du désert des plus ne soient plus là. Ils ne passent pas leur soirée à coudre en silence. »
« Quand ils sont chez eux, c'est ce qu'ils font certainement, »
la contredit Kefria fermement. « Personne ne reçoit, ne joue ni ne fait de la musique tous les soirs. »
Tu ne dois pas partir de ce principe dans tes relations avec Rain.
Eh bien, s'il m'épouse et qu'on a un foyer à nous, on ne s'ennuiera pas le soir, je peux te le dire. Nous aurons des amis qui amèneront des musiciens. Ou on sortira.
Dilo et moi, on a décidé que quand on sera mariés et libres de faire ce qui nous plaît, on aurait souvent...
Si tu épouses Rain, tu vivras dans le désert des pluies, pas à Terrilville.
Fit remarquer Ronika à mi-voix. Tu devras te faire des amis là-bas et apprendre à vivre comme eux.
Pourquoi faut-il toujours que tu sois aussi rabat-joie?
Demanda Malta avec hargne.
Quoi que je dise, tu me contredis. Tu n'as qu'une envie, c'est que je sois malheureux, c'est tout.
À qui la faute si tu te berces de sottes illusions?
Mère, je t'en prie. Je vais devenir folle si vous commencez à vous chamailler et à vous lancer des piques.
Un lourd silence s'installa.
Je suis désolé. Je ne tiens pas à ce que Malta soit malheureuse. Je souhaite seulement qu'elle se réveille. Elle doit comprendre que si elle veut être heureuse, il lui faut décider de l'être dans le cadre de sa vie. Ces folles idées de réception sans fin et de divertissement ne sont pas...
Pas étonnant que tante Malta se soit enfuie,
s'écria Malta en interrompant sa grand-mère.
Tout l'avenir que tu vois pour tout le monde, c'est l'ennui et le travail. Eh bien, ma vie à moi ne sera pas ainsi. Rain m'a raconté plein de choses passionnantes sur le désert des pluies. Quand on ira rendre visite à sa famille, il me montrera la cité des anciens, d'où proviennent les pierres de feu et la jizine et autres merveilles. Il m'a appris qu'il y a des endroits où, à un contact de la main, les pierres s'éclairent comme dans les temps anciens. Il a dit qu'il a même vu parfois errer des fantômes. Tout le monde ne peut pas les voir. Seuls ceux qui sont très sensibles, mais d'après lui, j'ai peut-être le don. Les plus doués peuvent parfois entendre les échos de leur musique. Il m'habillera comme il convient à une femme de la famille Rupprous. Je n'aurai ni à épousseter les meubles, ni à polir l'argenterie, ni à faire la cuisine. On aura des domestiques pour ça. Rain prétend...
Mère, pourquoi souris-tu ainsi? Tu te moques de moi?
Demanda-t-elle indignée. Non, pas du tout. Je pensais qu'il semble te plaire beaucoup, ce jeune homme. Releva Kefria en secouant légèrement la tête. Je me rappelle tous les grands projets que nous faisions, ton père et moi. Ces rêves ne se réalisent pas toujours, mais on passe des moments délicieux à les imaginer.
À mon avis, ce qui lui plaît, c'est plutôt la perspective de tout ce qu'il va lui apporter, corrigea Ronica doucement. Puis elle ajouta avec plus d'indulgence, « Mais il n'y a rien de mal là-dedans. Les jeunes gens qui partagent les mêmes rêves font souvent de très bons partenaires. »
Malta se remit à attiser le feu.
« Ne parlez pas comme si tout était déjà arrangé, parce qu'il n'en est rien, » dit-elle avec irritation.
« Il a des côtés qui ne me plaisent pas. Non seulement son voile et ses gants, comment imaginer à quoi il ressemble vraiment? Mais en plus, il n'arrête pas d'évoquer la politique. Tantôt ce sont les réceptions et les amis, tantôt c'est la guerre contre Jamelia. Il dit que nous devons tenir bon, aussi difficile que devienne notre vie. Il en parle comme s'il s'agissait d'une grande aventure. Il dit aussi que l'esclavage est mal. Je lui ai répondu que, selon papa, c'est une bonne chose pour Terrilville, et qu'il rebâtit notre fortune en vendant des esclaves. Il a osé déclarer que papa devrait changer sa façon d'agir et comprendre que l'esclavage est mal, qu'il est aussi mauvais pour notre économie qu'on devrait plutôt reprendre le commerce avec le désert des pluies. Et il a fait allusion à nos enfants, comme si j'allais avoir un bébé le lendemain de mon mariage.
Quand j'ai suggéré que nous devrions avoir une maison à Terrilville, comme dans le désert des pluies, de façon qu'on puisse aller souvent visiter mes amis, il a ri. Il répond qu'une fois que j'aurai vu les merveilles de sa cité, j'oublierai Terrilville, et que nous n'aurons pas de maison à nous, mais des appartements dans la grande maison que partage la famille Rupprous. Donc, je ne suis pas du tout sûr de choisir Rain.
Il semble que vous ayez beaucoup discuté de votre avenir, tous les deux, risqua Ronica.
Lui, il en parle comme si c'était chose faite. Quand je lui dis que rien n'est sûr, il sourit et me demande pourquoi j'aime à le torturer.
Oh, les hommes sont-ils tous aussi obtus?
Tous ceux que j'ai connus, sans exception, assura Ronica avec suffisance.
Puis elle ajouta avec plus de sérieux,
« Mais si tu as choisi de le refuser, tu dois nous le dire. Plus tôt vous romprez, moins il y aura de gêne pour les deux familles. »«
Oh, je n'ai pas encore décidé. Pas vraiment. Cela peut prendre un petit moment. »
Le silence retomba tandis que Malta méditait sur ses perspectives et que les deux femmes réfléchissaient sur les conséquences éventuelles de la décision.
« J'aimerais bien savoir où est Althea. » se surprit à répéter Kefria.
Sa mère soupira. Althea reposa sa chope. Sur la table, il ne restait plus grand-chose de la volaille rôtie. En face d'elle, Ambre arrangea ses couverts avec soin sur l'assiette. Jick se renversa sur le dossier de sa chaise et retira un fragment de nourriture coincé entre ses dents. Elle surprit le regard d'Althea et fit un large sourire.
« Vous n'avez pas de grand frère chez vous, hein » dit-elle pour la taquiner.
Des yeux comme les vôtres, c'est trop beau pour une femme.
Jick,
intervint Ambre sur un ton de réprobation amusée. Tu mets Althea mal à l'aise. Pourquoi ne vas-tu pas te promener un peu? Il faut qu'on parle sérieusement.
Jick se leva de table avec un grognement. Elle roula des épaules et fit craquer ses muscles.
Suivez mes conseils. Vous feriez mieux de boire sérieusement. Parlez sérieusement. Ce n'est vraiment pas une façon de passer sa première soirée dans sa ville natale.
Elle sourit et ses dents étincelèrent comme celles d'un carnivore.
Qui sait? Il se peut aussi qu'on boive?
Concéda aimablement Ambre. Jick tira sur ses bottes et saisit un manteau léger. Dès que la porte se fut refermée, Ambre se pencha en avant, appuyée sur les coudes, et pointa un doigt sur Althea.
« Reprends là où tu t'es arrêté. Et cette fois, ne glisse pas sur les moments où tu crois t'être mal conduite. Mon but n'est pas de te juger. »«
Alors pourquoi me pries-tu de raconter ?»
Pourquoi accédait-elle à la requête d'Ambre ?
Elle n'en savait encore que relativement peu sur cette femme. Pourquoi lui faire l'honneur de relater en détail ses voyages et ses expériences depuis la dernière fois qu'elle s'était vue ?
Ah, eh bien, l'échange est équitable, je crois, compte tenu de tout ce que je t'ai demandé.
Ambre reprit haleine, comme pour mettre de l'ordre dans ses idées.
Je ne peux pas quitter Terrilleville. J'ai des choses à faire ici.
Mais l'organisation de ces tâches dépend d'événements qui se déroulent ailleurs.
À Jamelia et dans la passe intérieure, par exemple. Alors je voudrais savoir quel changement tu y as observé.
Cela ne m'explique rien du tout, fit remarquer Althea à mi-voix.
Oui, je comprends. Permets-moi alors que je parle franchement. Je me voue à apporter certains changements. Je souhaite qu'on en termine avec l'esclavage, non seulement à Terrilleville, mais dans tout Jamelia et en Calcède. Je souhaite que Terrilleville se libère du joug de Jamelia. Et plus que tout, je souhaite résoudre l'énigme du dragon et du serpent.
Elle sourit d'un air entendu à Althea en prononçant ces paroles. Elle tapota d'abord la boucle d'oreille en forme de dragon qu'elle portait au lobe gauche, puis le serpent qui se balançait à son oreille droite. Elle leva un sourcil et attendit la réponse de son amie.
« Le dragon et le serpent ?»
interrogea Althea perplexe. L'expression d'Ambre se modifia. Un terrible effroi qui fit bientôt place à la lassitude. Elle s'adossa à sa chaise.
« En te disant cela, fit-elle à mi-voix, je m'attendais que tu bondisses sur tes pieds stupéfaites, ou que tu te mettes à crier « Oh !» ou que tu secoues la tête et que tu m'expliques tout. Mais je n'aurais jamais imaginé que tu resterais assise poliment, l'air déconcerté. »
Althea haussa les épaules.
« Désolé. » Ces mots n'ont aucun sens pour toi? Le dragon et le serpent?
Insista-t-elle avec une note désespérée dans la voix. Althea haussa de nouveau les épaules.
Réfléchis bien, implora Ambre, je t'en prie. J'étais tellement persuadée que tu étais celle-là. Plusieurs rêves m'ont fait douter, mais quand je t'ai revue dans la rue, la certitude a de nouveau jailli en moi. Tu es l'élu. Tu dois savoir. Réfléchis. Le dragon et le serpent.
Elle se pencha sur la table et scruta son amie, le regard suppliant. Althea prit une profonde inspiration.
Dragon et serpent. Très bien. Sur une île dans les mortes terres, j'ai vu une formation rocheuse appelée le dragon. Et notre navire a été attaqué par un serpent de mer sur la route de Terrilleville. Tu n'as pas parlé d'un dragon quand tu m'as raconté ton séjour dans les mortes terres. Cela ne m'a pas paru important.
Raconte-moi maintenant. » Les yeux d'Ambre brillaient intensément, comme ceux d'un chat.
Althea se pencha en avant et remplit sa chope au pichet de bière en terre cuite.
« Il n'y a pas grand-chose à raconter. Nous avons campé dessous quand nous avons fait l'abattage. C'est simplement un gros rocher qui sort de terre. Quand la lumière le frappe sous un certain angle, on dirait un dragon mort. Un des matelots les plus âgés a débité une histoire, prétendant que c'était un dragon tué au cours d'une bataille et que, si je l'escaladais, je trouverais une flèche fichée dans son poitrail.
« Et tu l'as fait ?»
Althea sourit d'un air penaud. « J'étais curieuse. J'ai grimpé sur le rocher un soir. Rayleur avait dit vrai. Les pattes antérieures étaient agrippées à une flèche qui pointait de son poitrail.
Alors, ce n'était pas une formation rocheuse. Il avait réellement des pattes antérieures. »
Althea pinça les lèvres. « Ou peut-être des marins désœuvrés l'ont-ils un peu embelli. C'est ce que j'ai pensé. » Rayleur prétendait que cette chose était là depuis des temps immémoriaux. Mais la hampe de la flèche n'avait pas l'air abîmée ni usée. C'est le plus beau morceau de bois sorcier que j'ai jamais vu. La seule chose qui m'est surprise, c'est que personne jusqu'ici ne l'ait prise. Mais les marins sont gens superstitieux et le bois sorcier a une funeste réputation.
Ambre était comme clouée sur sa chaise.
Le serpent commença Althea, mais son ami lui intima le silence.
« J'ai besoin de réfléchir un moment. Une flèche en bois sorcier, c'est tout ? Une flèche en bois sorcier, tirée par qui ? Et quand ? Pourquoi ?»
Althea ne possédait pas la réponse. Elle leva sa chope et avala une longue gorgée.
Ambre lui sourit. « Revenons à ton histoire. Raconte-moi la fin. Parle-moi du serpent quand ce sera le moment, en me donnant autant de détails que possible. Je promets d'être très attentive. »
Elle versa une petite mesure d'eau-de-vie dorée dans son verre et se laissa aller en arrière, pleine d'espoir.
Jick avait raison. Le pichet de bière avait été vidé deux fois et la bouteille d'eau-de-vie était sérieusement entamée avant que l'histoire fût terminée.
Ambre revint plusieurs fois sur l'attaque du serpent. Elle sembla particulièrement intéressée par la salive qui avait rongé le tissu et la chair et approuva de la tête l'assertion de Brashen. Il ne s'agissait pas d'un simple prédateur, mais d'une créature pensante qui accomplissait une vengeance.
Cependant, dans cette partie de l'histoire, rien n'avait éveillé l'intérêt d'Ambre comme la flèche de bois sorcier. Elle parut enfin avoir épuisé ses questions. Dans l'âtre, le feu se mourait. Althea revint d'un petit voyage à la cabane dans la cour pour trouver son amie qui versait les dernières gouttes d'eau-de-vie dans deux petits verres. Les porte-verres en bois sculpté, travail de l'hôtesse sans aucun doute, représentaient des entrelacs de feuilles de lierre.
« Buvons, » proposa Ambre, « à tout ce qui va bien dans la vie, à l'amitié et à une bonne eau de vie. »
Althea leva son verre, mais ne trouva rien à ajouter au toast.
« La vivacia ?»
suggéra son ami. « Je forme pour elle les meilleurs vœux, mais tant que je n'aurai pas les pieds sur ses ponts, elle reste mêlée à tout ce qui va le plus mal dans ma vie. »
« À Grag Ténira ?»
proposa l'autre facétieusement.
« Là aussi, c'est trop compliqué. »«
À Brashentrel ?»
s'exclama Ambre hilar.
Althea poussa un grognement et secoua la tête,
mais son ami n'en leva pas moins son verre.
« Aux hommes irresponsables qui cèdent à leur passion. »
Elle avala son eau-de-vie d'une traite.
« Ainsi les femmes peuvent-elles prétendre qu'elles n'y sont pour rien ?»
La dernière phrase fut prononcée alors qu'Althea avait capitulé et lampait aussi son alcool.
Elle s'étouffa et recracha. « Ambre, ce n'est pas juste, il a profité de moi. »«
Ah bon ?
mais je te l'ai expliqué,
répondit-elle avec obstination. En réalité, elle n'avait presque rien dit. Elle avait seulement avoué en haussant les épaules que c'était arrivé. Sur le moment, Ambre avait laissé passer en se contentant de hausser un sourcil. Maintenant, elle soutenait sans ciller le regard furieux d'Althea avec un petit sourire plein de sous-entendus.
J'avais bu et de la bière droguée par-dessus le marché, et j'avais reçu un bon coup sur la tête. Alors il m'a donné de la sindine, et j'avais froid, j'étais trempé et épuisé.
Tout ça, c'est vrai aussi de Brachen. Je ne critique pas, Althea. Inutile de vous trouver des excuses pour ce qui s'est passé. Vous avez partagé ce dont vous aviez tous les deux le plus besoin. De la chaleur, de l'amitié, la délivrance, la reconnaissance.
La reconnaissance?
Ah, alors tu ne discutes pas les trois premiers points?
Althea ne répondit pas à la question. Parler avec toi, c'est un exercice d'équilibre, se plaignit-elle, puis elle ajouta.
Reconnaissance de quoi? De qui tu es? De ce que tu es? Dit Ambre d'une voix basse, presque douce.
Alors tu penses toi aussi que je suis une prostituée?
En vain avait-elle tenté de glisser une pointe d'humour dans sa voix. Son amie la dévisageait. Elle se renversa en arrière sur sa chaise et se balança sur deux pieds.
« Tu sais très bien ce que tu es. Tu n'as pas besoin de mon opinion. Tu n'as qu'à regarder tes rêveries. T'es-tu déjà imaginé installé dans la vie, en épouse et en mère? T'es-tu même demandé quel effet ça faisait d'attendre un bébé? Rêves-tu de t'occuper de tes marmots en attendant le retour de ton mari parti en mer?
Seulement dans mes pires cauchemars, reconnut-elle en riant.
Donc, si tu ne te vois pas en femme mariée, t'attends-tu à passer toute ta vie sans rien connaître des hommes?
Je n'y ai pas beaucoup réfléchi, répondit-elle en rapprochant sa chope de bière. Ambre poussa un grognement.
Il y a une partie de toi qui ne pense pas à autre chose, même si tu ne veux pas l'admettre.
Tu refuses la responsabilité, tout simplement.
Tu préférais te dire que ça t'arrive par hasard, que c'est l'homme qui t'y a amené par la ruse.
Elle fit retomber sa chaise avec un bruit mat.
Viens, la marée monte et j'ai un rendez-vous,
dit-elle en faisant un petit renvoi.
Accompagne-moi.
Althea se leva. Elle ne savait pas si elle était vexée ou amusée.
Où allons-nous?
Demanda-t-elle en prenant le manteau en haillons que son amie lui tendait.
« À la plage. Je veux te présenter un de mes amis, Parangon. »«
Parangon? Le navire? Je le connais bien. »
Ambre sourit.
« Je sais. Il a parlé de toi un soir, un lapsus. J'ai fait comme si de rien n'était. Pourtant, même sans cela, je m'en serais douté. Tu as oublié des traces de ton séjour à bord ?» Mêlé aux affaires de Brachen.
Comme quoi?
Demanda Althea soupçonneuse.
Un petit peigne que tu portais, la première fois que je t'ai remarqué. Tu l'as oublié sur un dormant de hublot, comme si tu t'étais recoiffé là.
Ah, mais qu'as-tu à voir avec le parangon?
Ambre guetta la réaction d'Alta.
« Je te l'ai dit, c'est mon ami. »
Et elle ajouta avec prudence,
« J'ai l'intention de l'acheter. »«
Impossible !» s'exclama Althea indignée. « Les Lutchances ne peuvent pas vendre leur vive nef, même si elle s'est couverte de honte. »«
Alors, il y a une loi qui l'interdit ?»
C'était une interrogation, rien de plus.
« Non, on n'a jamais eu besoin d'une telle loi. » C'est une tradition de Terrilleville.
Bien des traditions, parmi les plus sacrées, sont en train de céder sous les attaques violentes des nouveaux marchands. On ne le clame pas sur les toits, mais quiconque s'intéresse un peu à ces choses sait que le parangon est à vendre.
et les offres des nouveaux marchands sont prises en considération. »
Althea garda un moment le silence. Ambre mit une cape et tira un capuchon sur ses cheveux pâles.
« Si la famille Lutchans est obligée de vendre Parangon, elle le vendra au premier marchand ?»
dit enfin Althea à voix basse. « Pas à une nouvelle venue comme toi. »
« Je me demandais si tu ferais cette objection. »
répondit Ambre d'un ton égal. Elle souleva la barre et ouvrit la porte.
« Tu viens ?»«
Je ne sais pas. »
Elle sortit la première, puis attendit dans la ruelle obscure que son amie eut refermée. Durant les dernières minutes, la conversation avait pris une tournure embarrassante. Le plus troublant était qu'Ambre avait délibérément provoqué ce petit conflit. Voulait-elle mettre leur amitié à l'épreuve? Ou cachait-elle d'autres priorités derrière ses taquineries? Althea choisit ses mots avec soin.
« Je ne pense pas que tu vailles moins que moi parce que tu n'es pas d'origine marchande. Mais il y a des choses qui sont du seul ressort des marchands de Terrilville. Et ces choses-là, nous les défendons jalousement. Nos vives nefs sont très particulières. Nous ressentons le besoin de les protéger. Il est difficile de faire comprendre à un étranger tout ce qu'elles représentent pour nous.
Il est toujours difficile d'expliquer ce qu'on ne comprend pas soi-même,
rétorqua Ambre à mi-voix.
Althea, cette idée doit faire son chemin, non seulement en toi mais chez tous les marchands. Pour survivre, il va falloir que vous changiez. Il va falloir que vous déterminiez ce qui est essentiel pour vous et que vous le préserviez. Vous devez accepter et non soupçonner les alliés qui partagent les mêmes valeurs. Surtout, vous devez renoncer à vos prétentions sur ce qui ne vous appartient pas, sur ce qui n'appartient même pas aux marchands du désert des pluies, mais qui est l'héritage légitime de tous.
« Que sais-tu sur les marchands du désert des pluies ?»
demanda Althea en plissant les yeux pour distinguer Ambre dans l'obscurité.
« Fort peu. Vos traditions de silence obligent. Je soupçonne qu'ils pillent les cités des anciens et s'approprient l'antique magie. Terrilville et ses marchands servent de bouclier pour cacher un peuple inconnu du reste du monde. » Ces gens fouillent au cœur de secrets qu'ils ne peuvent comprendre. Ils démantèlent le savoir durement acquis d'un autre peuple, d'une autre époque, et en font commerce comme s'il s'agissait d'amusantes babioles. Je soupçonne qu'ils détruisent autant qu'ils dérobent. Allez, viens.
Althea, prête à répliquer, serra les mâchoires. Elle emboîta le pas à son ami. Il y eut un bref silence. Puis Ambre se mit à rire.
« Tu vois, tu ne veux même pas me dire si mes déductions sont justes. »«
Ce sont les affaires des marchands de Terrilville. On n'en parle pas avec des étrangers. »
Elle perçut la froideur de sa propre voix, mais ne la regretta pas. Durant un moment, elles cheminèrent dans une fausse fraternité. Les échos des festivités du marché de nuit leur parvenaient, aussi lointains que les souvenirs d'un temps meilleur. Le vent du large était glacial. Dans ces heures précédant l'aube, le printemps s'oubliait. Le monde revenait au froid et à l'obscurité de l'hiver. Althea touchait le fond du désespoir. Elle n'avait pas compris à quel point elle tenait à l'amitié d'Ambre, jusqu'à ce qu'elle l'eût sentie menacée. Soudain, sa compagne lui prit le bras et le geste vint appuyer la véhémence de la voix.
« Terrilville ne peut pas être autonome. Jamais il a été corrompu. Le gouverneur va vous livrer à Calcède ou vous vendre aux nouveaux marchands sans la moindre hésitation. Il s'en moque, Althea, comme il se moque de son honneur, de la parole de ses ancêtres et des habitants de Terrilville. Il se moque même des citoyens de Jamelia. Il est tellement préoccupé de lui-même qu'il ne voit rien en dehors de ce qu'il concerne lui. »
Elle secoua la tête et Althea crut déceler une profonde tristesse.
« Il est venu trop jeune au pouvoir, sans y avoir été initié. Il était promis à un grand avenir, il était très doué. Le père se réjouissait des capacités de son fils qui charmait ses précepteurs. Personne ne souhaitait décourager sa curiosité d'esprit. il a joui d'une liberté complète. On ne lui a imposé aucune discipline. Durant un certain temps, on a eu l'impression d'observer l'épanouissement d'une fleur bizarre. Ambre s'interrompit, comme plongée dans les souvenirs d'un temps meilleur. Puis elle continua en soupirant. Mais le souvenir d'une personnalité appelle des limites. D'abord, la cour s'est amusée à le voir découvrir les plaisirs de la chair et s'y adonner. Conformément à son caractère, il s'est appliqué à en explorer toutes les formes possibles. Tout le monde a cru qu'il ne s'agissait que d'une étape de sa croissance. À tort, c'était la fin de sa croissance. Embourbé dans le plaisir, fasciné par les titillations de ses sens, il est devenu parfaitement égocentrique. Les ambitieux, voyant là le moyen de se gagner les faveurs du futur gouverneur, se sont employés à satisfaire ses désirs. Les gens dénués de scrupules, voyant à leur tour s'ouvrir un chemin vers le pouvoir, lui ont fait connaître de nouveaux plaisirs exotiques, auxquels eux seuls étaient en mesure de répondre. Quant à la mort subite de son père, il a été projeté au pouvoir, les ficelles de la marionnette étaient déjà attachées. Depuis, elles n'ont fait que se raccourcir. Ambre eut un rire sans joie. Ironie du sort, le jeune homme que les murs de la discipline n'ont jamais restreint s'étrangle maintenant aux brides de ses vices. Ses ennemis vont voler son peuple, annexer ses terres, et lui, il sourira à travers les vapeurs de ses herbes à rêve.
Tu me parais bien au courant de son histoire.
En effet.
Devant la brusquerie de la réponse, Althea ravala la question qu'elle allait poser et la remplaça par une autre.
« Pourquoi me racontes-tu tout ceci ? »
demanda-t-elle à voix basse.
« Pour te secouer, faire appel à l'honneur du gouverneur, lui rappeler ses promesses passées sera sans effet. Les maladies du pouvoir l'ont rongé trop profondément, lui et les familles influentes de Jamelia. Ils sont trop occupés de leur propre salut, trop attachés à recueillir les miettes de pouvoir pour s'intéresser à la condition désespérée de Terrilville. Si vous souhaitez durer, alors il vous faut trouver des alliés. Non seulement parmi les nouveaux venus qui partagent vos idéaux, mais aussi parmi les esclaves amenés ici de force et parmi tous ceux qui ont les mêmes ennemis que Terrilville. Les marchands du désert des pluies doivent aussi sortir de l'ombre pour faire valoir leurs droits autant que pour assumer leurs responsabilités.
Althea s'arrêta net dans la rue. Ambre fit un pas puis s'immobilisa à son tour pour regarder son ami.
Il faut que je rentre chez moi. Après tout ce que tu viens de dire, je vois mieux la triste situation dans laquelle se trouvent Terrilville et ma famille.
Ambre lui lâcha le bras.
Si j'ai réussi à te faire comprendre que les deux sont liés, je n'ai pas perdu mon temps ce soir. Tu viendras voir Parangon une autre fois, et tu le persuaderas avec moi qu'il doit m'aider à le racheter.
Il faudrait d'abord que je m'en persuade moi-même, dit Althea, satisfaite d'apprendre que Parangon avait assez de bon sens pour s'opposer à Ambre.
Malgré l'affection qu'elle portait à son ami,
il existait sans aucun doute meilleur acquéreur pour Parangon. Elle ajouta l'affaire à la liste de ses soucis. Elle en parlerait avec Grag et son père quand elle les reverrait.
Tu en seras convaincu si tu ouvres les yeux et les oreilles. Sois prudente, Althea. Rentre bien chez toi. Viens me voir dès que possible. Jusque-là, fais attention. Tiens compte de tout ce qui agite Terrilville. Remarque tout ce qui te semble anormal, même ce qui paraît ne pas te concerner. Et tu aboutiras aux mêmes conclusions que les miennes.
Althea hocha la tête en silence, ce qui lui évita de répondre qu'elle aboutirait à ses propres conclusions. Sa priorité était le bien de sa famille.
On va attendre toute la nuit ?
Finit par demander Malta. La réponse de Kefria fut étonnamment mesurée.
« Je guette le retour d'Althea. Tu dois être fatiguée, ma chérie. La semaine a été éprouvante pour toi. Tu peux aller te coucher si tu veux.
Ne m'as-tu pas expliqué que grand-mère commencerait à me traiter en adulte quand je me conduirais en adulte ? »
dit-elle, l'œil fixé sur Onika. La petite étincelle qu'elle surprit dans le regard de sa grand-mère lui confirma que le trait avait porté. Il était temps que la vieille dame comprenne.
Il arrivait que Malta et sa mère parlent entre elles de temps à autre. « J'estime que si vous attendez toutes les deux tante Althea, je devrais rester moi aussi. »«
Comme tu veux, »
concéda sa mère d'un ton las. Elle reprit l'ouvrage d'aiguille qu'elle avait mis de côté et l'examina. Malta se laissa aller en arrière sur sa chaise, les jambes ramassées sous elle. Elle avait mal au dos et son cœur battait fort. Pourtant, elle souriait. Quelle semaine pour elle, en effet. Elle tendit la main pour dénouer ses cheveux qui cascadèrent sur ses épaules. Elle se demanda ce que Rein penserait s'il pouvait la voir ainsi. Elle l'imagina, assis en face d'elle, qui regardait sa chevelure se dérouler lentement. Il pencherait la tête, son voile remuerait légèrement sous son soupir. Il jouerait avec les bouts de ses gants. Il lui avait confié qu'il trouvait les gants plus gênants que le voile. Le toucher direct en apprend beaucoup. Un contact, peau contre peau, peut exprimer des mots que les lèvres ne sont pas libres de prononcer. Il avait tendu la main, comme pour l'inviter à toucher ses doigts gantés, mais elle n'avait pas bronché.
« Vous pourriez les retirer, » lui avait-elle dit. « Je n'aurais pas peur. »
Il avait eu un rire léger qui avait gonflé son voile. « Je ne crois pas que vous ayez peur de grand-chose, ma petite chatte chasseresse. Mais ce ne serait pas convenable, et j'ai promis à ma mère de vous faire une cour convenable. »«
Ah oui ?»
Elle s'était penchée en avant en respirant fort.
« Vous dites cela pour me rassurer, ou pour me dissuader de commettre une inconvenance ?»
Elle avait haussé un sourcil, un petit sourire aux lèvres, expression qu'elle avait souvent essayée devant son miroir. Un frémissement du voile en dentelle lui apprit qu'elle avait marqué un point. Ce bref soupir indiquait qu'il était à la fois choqué et ravi de son audace. Mais mieux encore, par-dessus son épaule, elle avait surpris le regard noir de Serwin Trell. Elle avait laissé échapper un gloussement, feignant d'être absorbée par Rein, alors qu'elle guettait la réaction de Serwin. Celui-ci avait saisi au passage sur le plateau d'un domestique une bouteille de vin et avait rempli son verre. Il était bien trop poli pour exprimer ouvertement sa rage en cognant la bouteille sur la table, mais il l'avait reposée avec assez de brusquerie. Dilo s'était penché pour le réprimander et il avait dédaigné la remarque de sa sœur. Qu'avait-il pensé alors? Qu'il avait été trop timoré en faisant sa cour? Qu'il avait laissé passer sa chance de jamais voir une créature aussi exceptionnelle que Malta lui sourire de cette façon? Elle l'espérait bien. Elle évoqua l'exaspération qui couvait entre les deux hommes et elle frissonna. Elle était si contente d'avoir pu parler à sa mère à la réception d'adieu, avant le départ de Rein. Elle avait supplié qu'on lui permît de présenter Rein à ses amis. Elle devait se rendre compte par elle-même s'ils accepteraient son soupirant du désert des pluies. Le succès avait dépassé ses plus folles espérances. Toutes les jeunes filles, sans exception, avait été verte de jalousie de l'avoir ainsi gâtée. Elle avait trouvé un moment pour s'éclipser en compagnie de Dilo. Elle lui avait montré toutes les charmantes babioles que Rein s'était arrangées pour glisser parmi les cadeaux autorisés. La libellule posée, immobile, sur les fleurs envoyées dans sa chambre, artistement façonnées de délicates gemmes et de métaux précieux. La pierre de feu d'un bleu profond dissimulée dans un flacon de parfum. Le panier de violettes en sucre, apparemment tapissé d'un mouchoir arachnéen qui, quand on le secouait, était assez grand pour recouvrir son lit. Un petit mot sans signature, caché dans ses plis, expliquait que les femmes du désert des pluies utilisaient cette étoffe pour confectionner le linge de nuit de leur trousseau. La pomme, dans une corbeille de fruits, habile imitation.
Au simple contact, elle s'ouvrait sur un collier d'opale d'eau et un minuscule paquet de poudre d'argent. Le mot qui l'accompagnait précisait qu'elle devait placer la poudre dans la boîte à rêves 10 jours après le départ. Quand Dilo lui avait demandé à quoi servait la boîte à rêves, Malta lui avait répondu qu'elle lui envoyait des songes partagés par Rain. Et quand son amie s'était enquise de la teneur des rêves, elle s'était détournée et avait réussi à rougir.
« Il serait inconvenant de les raconter », avait-elle chuchoté le souffle court.
À peine était-elle retournée à la réception que Dilo s'était excusée. Quelque temps plus tard, Malta l'avait surprise, tout excitée, en pleine conversation avec Arrête. Le bruit avait rapidement monté, comme une marée, et avait englouti Serwin. Elle ne lui avait accordé qu'un simple coup d'œil ce jour-là, et elle avait entrevu dans son regard un désespoir non dissimulé auquel elle avait répondu par une expression accablée et implorante. Après quoi, elle avait feint de l'ignorer. Absorbée par la conversation de Rain, elle avait laissé à sa mère le soin de faire ses adieux aux invités.
Comme il était délicieux de s'interroger sur la réaction à venir de Serwin.
Elle fut tirée de ses rêveries par le bruit discret de la porte de la cuisine. Sa mère et sa grand-mère échangèrent un regard.
« Je l'ai laissée ouverte pour elle, » expliqua grand-mère Vestrit à mi-voix.
Elles se levèrent, mais avant qu'elles aient pu faire un mouvement, un homme avait pénétré dans la pièce. Kefria sursauta et recula, horrifié.
« Je suis rentré !»
annonça Althea. Elle ôta son manteau en haillons et leur sourit. Ses cheveux sales, plaqués sur le crâne, étaient noués en tresses de garçon. Elle avait le teint rouge gercé par le vent. Elle s'avança à grands pas et tendit les mains vers le feu, parfaitement à l'aise en apparence. Elle sentait le goudron, l'étoupe et la bière.
« Dieu des poissons !»
s'exclama Kefria, et la grossièreté du juron les firent sursauter. Elle secouait la tête, consternée.
« Althea, comment peux-tu nous faire ça? Comment peux-tu te faire ça à toi-même? N'as-tu donc aucune fierté, aucun égard pour notre nom ?»
Et elle se rassit lourdement. « Ne t'en fais pas, personne ne m'a reconnue !» rétorqua Althea. Elle fit le tour de la pièce en reniflant comme un chien d'arrêt. « Vous avez déplacé le bureau de père !» remarqua-t-elle sur un ton accusateur.
« Il y a plus de lumière près de la fenêtre !» expliqua grand-mère avec douceur. « En vieillissant, je distingue moins bien les petites lettres. Je dois m'y reprendre à 4 ou 5 fois pour enfiler une aiguille maintenant. »
Althea allait répondre, mais se ravisa. Son expression changea légèrement.
« J'en suis désolée, » dit-elle sincèrement.
Elle secoua la tête. « Cela doit être dur de perdre des facultés qu'on a toujours considérées comme normales. » Malta tâchait de les observer toutes les trois en même temps. Sa mère serrait les lèvres, furieuse que sa réaction ait été ignorée. Au contraire, grand-mère regardait Althea sans colère, seulement avec une grande tristesse. Malta risqua une remarque.
« Tu ne peux pas savoir si on t'a reconnu ou non. À la rigueur, tu peux dire que personne n'a montré qu'il te reconnaissait, peut-être par honte pour toi. »
Althea parut interloquée que Malta eût pris la parole. Elle plissa les yeux.
« Tu ne devrais pas oublier les bonnes manières quand tu t'adresses à des adultes, Malta. Quand j'avais ton âge, je n'avais pas le droit d'interrompre les grandes personnes. »
Ce fut comme une étincelle sur de l'amadou. Kefria bondit sur ses pieds et s'interposa.
« Quand tu avais l'âge de Malta, je m'en souviens très bien, tu étais un garçon manqué, pieds nus, tu grimpais dans le gréement du navire et tu parlais librement avec toutes sortes de gens. Et parfois, tu faisais plus que parler. »
Althea pâlit, ce qui fit ressortir les taches qu'elle avait sur le visage. Malta subodora un secret. Sa mère savait quelque chose sur tante Althea, quelque chose de vilain. Les secrets, c'est le pouvoir.
« Suffit !» dit grand-mère à voix basse.
Vous avez été séparés pendant presque un an. Et la première fois que vous vous retrouvez dans la même pièce, vous vous crachez dessus, comme des chats en colère. Je ne suis pas resté debout toute la nuit pour vous entendre vous disputer. Asseyez-vous et taisez-vous. Je veux que vous m'écoutiez. »
Kefria revint lentement à sa chaise et Ronika se rassit en soupirant. Comme pour exaspérer sa sœur, Althea se laissa tomber sur les pierres du foyer et croisa les jambes en tailleur.
Malta trouvait cette posture obscène pour une femme.
Althea rencontra les yeux de sa nièce et lui sourit. Celle-ci intercepta le regard de sa mère et secoua légèrement la tête. Kefria soupira. Grand-mère fit comme si de rien n'était.
Au lieu de nous critiquer mutuellement, nous devons examiner la situation de la famille et faire notre possible pour l'améliorer,
commença grand-mère.
Tu ne vas même pas lui demander où elle est allée pendant tout ce temps et ce qu'elle a fait? Nous étions mortes d'inquiétude, et la voilà qui revient, sale et vêtue en homme et...
Ma nièce est habillée en femme et manifestement on s'en sert comme appât pour attirer l'argent du désert des pluies.
Et si on parlait d'abord de l'honneur de la famille et de la moralité de tout ceci?
Interrogea sèchement Althea.
Grand-mère se leva et se plaça entre elles. J'ai dit que c'était à moi de parler. J'essaie d'aller à l'essentiel avant que nous nous enlisions dans les chamailleries. Nous avons toutes des questions. Mais ces questions attendront jusqu'à ce que nous ayons établi si, oui ou non, nous pouvons nous comporter comme des membres d'une même famille. Si nous en sommes incapables, alors les questions n'ont plus d'objet.
Si Althea avait été ici, comme elle l'aurait dû, elle saurait ce que nous avons eu à affronter,
intervint Kefria à mi-voix.
Mais pardon de t'interrompre. Je t'écouterai jusqu'au bout, mère.
Merci. Je serai brève. Tout à l'heure, je t'ai mise rapidement au courant, Althea, mais sans entrer dans les détails. Je crois qu'il faut examiner la situation de la famille avant nos préoccupations particulières et mettre de côté nos différends, ou au moins les cacher. Nous devons savoir où nous en sommes. Alors, nous pourrons présenter à Terrilville un front uni. Nous ne réchapperions pas du moindre soupçon de scandale.
Grand-mère se tourna légèrement vers tante Althea.
Althea, nous sommes assaillis par nos créanciers. Seule notre réputation les tient à distance. Aujourd'hui, ils croient encore que nous allons les rembourser avec les intérêts et tout. Kefria et moi, et Althea devrais-je ajouter, avons consenti de grands sacrifices pour maintenir une apparence de stabilité. Nous vivons très simplement. J'ai dû me séparer des serviteurs à l'exception de Rack. Nous faisons nous-mêmes le ménage. Nous ne sommes pas les seuls à Terrilville qui ayons dû nous résoudre à ces compromis, même si nous sommes peu nombreux à être aussi gênés. À certains égards, cela rend notre position encore plus délicate. La plupart de nos créanciers sont à court d'argent. Certains qui auraient consenti un délai ne peuvent se le permettre à cause de leur propre famille.
Et grand-mère de continuer, litanie trop familière aux oreilles de Malta. Elle luttait pour garder les yeux ouverts. Observer tante Althea, là était le seul intérêt. La culpabilité et la honte animaient par intermittence sa physionomie. Bizarre. Grand-mère ne lui disait pas que c'était en partie sa faute, que si elle était restée à la maison comme il se devait, elle aurait pu aider sa famille. Cependant, elle réagissait comme si on l'avait accusée. Quand grand-mère lui apprit que la famille Rouprousse avait racheté la dette de la Vivacia et que la petite Malta n'avait guère la possibilité de refuser avec grâce la demande en mariage, sa tante lui adressa même un bref coup d'œil de sympathie. Pour le coup, Malta prit un air de martyr. Grand-mère acheva par ces mots.
« Tu as certainement remarqué les changements dans la maison et la propriété. Maintenant, tu sais quels sont les fruits de sacrifices nécessaires, non de la négligence. Voici ce que je te demande, Althea. Reste à la maison. Habille-toi comme il faut. Conduis-toi avec pondération. Si Kefria est d'accord,
tu peux te rendre utile en t'occupant de plusieurs propriétés qui exigent une surveillance active.
Ou, si tu sens que tu as besoin de plus de liberté, tu pourrais reprendre la petite ferme qui vient de ma dot. C'est un coin paisible, mais confortable, qui prospérerait si on y prenait de l'intérêt. Tu trouverais peut-être une certaine satisfaction à t'en faire un but, à voir ce que tu...
Mère, ce n'est pas pour cela que je suis revenu, dit Althea d'une voix presque triste. Je ne veux ni d'un jouet, ni d'un but. Je ne souhaite pas davantage faire honte à ma famille. Je suis venu pour apporter mon assistance, mais dans le domaine où je suis compétente.
Elle affronta sa sœur du regard. Kefria, tu sais que la vivacia aurait dû me revenir. Tu l'as toujours su. Je suis rentré pour la récupérer, pour la soustraire au mauvais traitement qu'elle subit comme transport d'esclaves et pour l'utiliser comme source de gain au profit de la famille.
Malta bondit sur ses pieds.
C'est mon père qui est propriétaire du navire. Il ne te laissera jamais le lui reprendre.
Althea en eut le souffle coupé. La colère fit flamboyer ses yeux. Elle serra les mâchoires puis se détourna de sa nièce pour ne s'adresser qu'à Kefria.
« Ma sœur, tu possèdes le navire, » poursuivit-elle d'une voix unie. « Son avenir ne dépend que de toi. Terrilleville n'est pas Calcède, où l'on dépouille une femme de sa fortune pour la donner à son mari. De plus, vous avez toutes entendu Kyle jurer devant ça que si je pouvais lui montrer un brevet de marin attestant ma compétence, il me rendrait le navire. J'ai ce brevet, estampillé du portrait de la vive nef Ophélie. Le capitaine comme son second témoigneront de mes capacités à commander. J'ai été absente durant presque un an. Pendant tout ce temps, je n'ai eu qu'une idée. Non pas faire honte à ma famille, mais au contraire me montrer digne de ce qui aurait dû m'appartenir sans contestation. »
Elle ajouta avec une note de supplication dans la voix. « Kefria, tu ne vois donc pas. Je t'ai facilité la tâche. Rends-moi le navire. Kyle tiendra son serment devant ça, et tu feras ce que tu sais être juste. Je te donne ma parole, mais je veux bien m'engager par écrit si tu le désires. Les bénéfices de chaque voyage te reviendront intégralement, hormis ce qu'il me faudra pour radouber et reprendre la mer. »
Malta fut écœurée par l'expression de sa mère, qu'on sentait ébranlée par les paroles d'Althea. Mais avant qu'elle ait pu intervenir, sa tante fit elle-même échouer la manœuvre.
« Que pourrait-il t'en coûter ? »
demanda-t-elle avec emphase. « Si Kyle s'y oppose, tu n'as qu'à lui tenir tête. Tu aurais dû le faire depuis belle lurette. Il s'agit d'une affaire de famille, d'une affaire Vestrite, d'une affaire de marchand de Terrilleville. Cela n'a rien à voir avec lui. »
« C'est mon mari !»
s'écria Kefria, outragé.
« Il a ses défauts, et je suis parfois fâché contre lui. Mais il n'est pas un animal de compagnie ni un meuble. Il fait partie de la famille. Pour le meilleur ou pour le pire, ce lien existe, Althea. J'en ai assez que mère et toi vous le traitiez comme quantité négligeable. C'est mon mari et le père de mes enfants, et il croit sincèrement bien faire. Si tu ne peux lui témoigner de respect, ne peux-tu au moins respecter les sentiments que je lui porte ?»«
Comme il a respecté les miens ?» demanda Althea sarcastique.
« Suffit !»
interrompit grand-mère d'une voix grave.
« C'est ce que je redoute le plus. Que nous soyons incapables de mettre nos différends de côté pour préserver la fortune de la famille. »
Les deux sœurs se lançaient des regards noirs. Malta se mordit la langue. Elle mourait d'envie de bondir en déclarant qu'Althea n'avait qu'à s'en aller.
Qu'était-elle après tout ? Une femme sans mari, sans enfant, une branche morte de l'arbre familial. Elle ne s'intéressait à la fortune des siens que pour les richesses qu'elle pouvait en retirer.
C'était Malta et Selden, les plus durement affectées par le pétrin dans lequel la désastreuse administration de leurs grands-parents les avait fourrées. Cela lui semblait si logique. Pourquoi ne le voyait-elle pas ?
Son père était le seul homme fort qui leur restait. C'était ses enfants qui profiteraient ou pâtiraient le plus de la gestion de la fortune. C'était à lui de prendre les décisions.
Ah, si seulement il était là!
Mais il n'était pas là. Restait à Malta d'être ses yeux et ses oreilles. Quand il reviendrait, il saurait tout. Elle ne le laisserait pas à la merci de la trahison de ces femmes assoiffées de pouvoir. Sa grand-mère s'était levée et s'était interposée entre ses filles. Lentement, silencieusement, elle tendit la main à chacune. Ni l'une ni l'autre ne fit preuve d'enthousiasme, mais elles prirent sa main.
« Voici ce que je vous demande, » dit-elle à mi-voix, « pour le moment. Que nos disputes ne franchissent pas ces murs. En apparence, ne faisons qu'un. Althea, Kefria, aucune décision ne peut être prise avant que la Vivacia ne rentre au port. Jusque-là, faisons ce que nous n'avons pas fait depuis des années. Vivons en famille sous le même toit en unissant nos efforts pour le bien commun. »
Elle regarda ses filles tour à tour.
« Vous n'êtes pas si différentes l'une de l'autre que vous le croyez. Une fois que vous aurez constaté ce que vos forces conjuguées peuvent accomplir, vous n'aurez plus envie de vous opposer l'une à l'autre. Vous avez adopté des positions divergentes, mais il y a bien des compromis envisageables. Lorsque vous aurez de nouveau appris à vous connaître l'une et l'autre, vous y serez plus accessibles. »
L'influence que grand-mère exerçait sur ses deux filles était presque palpable. Le silence envahit la pièce. Malta les sentait qui regimbaient. Ni l'une ni l'autre ne se regardaient ni ne regardaient leur mère. Pourtant, comme le silence se prolongeait, Althea première puis Kefria levèrent les yeux. Malta serrait les poings quand leurs regards se croisèrent.
Quelque chose passa entre elles. Qu'était-ce?
Le souvenir d'une entente passée? La conscience des devoirs qu'elles avaient à l'égard de leur famille? En tout cas, le fossé entre elles se combla. Il n'y eut pas de sourire, mais l'entêtement disparut, sur leurs lèvres et dans leurs yeux. Kefria leva une main de traître vers sa sœur. Althea capitula et la prit. Grand-mère lâcha un grand soupir de soulagement. Elle resserrait le cercle de famille. Personne, sauf l'intéressé, ne remarqua que Malta en était exclue. Brûlée par une intense froideur, elle entendit Ronica déclarer
« Vous ne regretterez pas d'avoir essayé. Je vous le promets. »
Malta réserva au seul feu mourant son sourire amer. Des promesses, elle en avait aussi à tenir.